Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la prière du Notre Père, méditer cette prière, voir quelle est pour le chrétien un centre dans sa vie spirituelle. Il est important de savoir que ce sont les apôtres qui ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. « Seigneur, apprends-nous à prier », dit les apôtres en Luc 11. « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et le Seigneur va donner une prière qu'on appellera la prière du Seigneur, l'oraison dominicale ou le Notre Père. Il va leur donner des mots. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous trouvons cette prière en Saint Luc, en Saint Matthieu. En Saint Matthieu, la prière est plus complète. Il y a 7 demandes. Et sur cette prière de Saint Matthieu, l'Église a formulé le Notre Père. Voilà, que nous connaissons, que nous disons. Cette prière du Notre Père, nous allons voir, a un ordre. Chaque demande, des 7 demandes, après Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, première demande, que ton règne vienne, deuxième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, troisième demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, quatrième demande, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, cinquième demande, et ne nous soumets pas à la tentation, sixième demande, mais délivre-nous du mal, 7e demande. Ont un ordre, alors on pourrait dire aussi, le chiffre 7 est symbolique. Le chiffre 7 est une plénitude. Il y a 7 jours de la semaine, il y a 7 sacrements, il y a, hélas aussi, 7 catégories de péchés capitaux. Donc, et le Seigneur nous dit, tu pardonneras 77 fois 7 fois. Donc il y a une totalité, un infini, un absolu. Tu pardonneras sans arrêt. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et donc nous voyons que le Notre Père, c'est une plénitude dans ses demandes. Et elles sont agencées de manière particulière, pédagogique, nous dirait saint Thomas d'Aquin, pour éduquer notre sens de la prière et notre affectivité. Alors, nous allons rentrer dans cette prière de l'oraison dominicale, de la prière du Seigneur ou du Notre Père. Pourquoi nous l'appelons l'oraison dominicale? Saint Augustin nous dit « Parcourez toutes les prières qui sont dans les Écritures et je ne crois pas que vous puissiez trouver quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. » Et saint Thomas d'Aquin d'ajouter, un autre grand docteur, « L'oraison dominicale est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il convient de le désirer, de sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi toute notre affectivité. » Donc, le Seigneur nous enseigne, je disais. Et cette oraison dominicale, pourquoi dominicale? Parce que ça vient de Dominus, qui est le Seigneur. C'est la prière du Seigneur. C'est comme le dimanche, le dies domini, le jour du Seigneur. Donc, les docteurs ont pu l'appeler la prière du Seigneur, l'oraison dominicale, parce que c'est la prière de Jésus. Cette prière du Seigneur, c'est la seule prière que le Seigneur nous a enseignée, vraiment. On a vu par moments sa prière. Père, je te bénisse, Seigneur du ciel et de la terre. Tout ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, qu'il soit un. C'est la prière de Jésus. Nous pouvons rentrer dans la prière de Jésus. Mais la prière que Jésus nous a enseignée explicitement, c'est la prière du Notre Père. Donc celle-là, il voulait vraiment que nous la connaissions. Et cette prière, Jésus nous la donne dans des paroles. Mais plus encore, il nous la donne dans des actes. Pourquoi? Parce que dans la prière du Notre Père, le chrétien est appelé à imiter Jésus. Il est appelé à imiter Jésus qui prie. Peut-être pas que Jésus a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mais Jésus est notre modèle de priant. Jésus est celui qui sans cesse prie le Père, il est notre modèle de priant, en parole, en pensée et en acte. Ça veut dire que quand je prie le Notre Père chaque parole, et nous allons le voir, j'ai comme modèle en pensée, en parole et en acte Jésus, qui peut dire vraiment Notre Père, qui peut dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ainsi de suite. Et donc, nous ne prions pas le Notre Père comme une prière répétée, nous la prions habitée par le Seigneur, qui est notre modèle, nous pouvons le contempler, le faire, et qui plus encore l'a pris en nous. Un chrétien, c'est celui qui vit avec Jésus en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul, et je suis invité à prier le Père dans le Fils, à prier le Père avec le Fils, pour être un autre fils, une fille de Dieu. Et c'est beau de recevoir cette prière du Notre Père le jour du baptême de Jésus, où Dieu nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Donc la réponse se fait dans le Christ, notre Père. Cette prière du Notre Père, elle est forcément un jaillissement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle ne peut pas être une prière répétitive, nous contemplons le Christ, nous prions dans le Christ, mais nous intériorisons cette prière à la mesure où nous nous rendons dociles au Saint-Esprit. Et c'est encore un bel effet de la Providence que de recevoir ça le jour du baptême, où l'Esprit descend. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint nous dit, en Romains et en Galates, « Le Père a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père » Galates 4, 6. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier vraiment le Notre Père si on n'est pas mû par l'Esprit-Saint. Et un critère pour voir si on grandit dans la piété chrétienne, c'est la manière dont on habite de plus en plus toutes les demandes du Notre Père. On les fait siennes, on les intériorise. Ça, c'est un effet du Saint-Esprit. Et souvent, on dit « Mais je ne connais pas le Saint-Esprit ». Très bien, mais est-ce que nous habitons de plus en plus le Notre Père? Voilà un effet vérificateur de notre docilité au Saint-Esprit. Et donc, c'est important d'avoir conscience de cela. Les premières communautés chrétiennes priaient le Notre Père, et le font toujours, plusieurs fois par jour. C'est la prière capitale des laudes, de la messe et des verbes. Je le mets dans cet ordre-là, puisque l'office des laudes est l'office principal de la liturgie des heures que prient les moines, les religieux, les religieuses, les moniales, les prêtres, et tout laïc qui est invité selon Vatican II. Et cet office a un point culminant qui est le Notre Père, la prière du Notre Père. L'office des laudes nous prépare à l'Eucharistie. Le soleil se lève avec les laudes, qui est le Christ, il rayonne dans l'Eucharistie, et au sein même de l'Eucharistie, nous avons la prière du Notre Père. Nous avons la prière du Notre Père après avoir reçu un enseignement du Seigneur qui est sa parole, après que le Seigneur se soit rendu de manière très présente, présent au milieu de nous, à travers l'Eucharistie, son corps et son sang, et à ce moment-là, dans sa présence, avec lui, par lui et en lui, nous disons Notre Père. C'est un sommet de la prière eucharistique. Centrale, en fin de journée, les moines, les moniales, les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés et tout le peuple de Dieu y est invité, selon le Concile Vatican II, nous pouvons prier les vêpres. Et à nouveau, la prière dominicale, la prière du Seigneur, l'oraison dominicale, le Notre Père, est le sommet des vêpres. Donc nous avons cette prière qui est cadencée trois fois dans la journée, dans la grande tradition de l'Église, et elle peut être répétée aussi personnellement. Elle est répétée dans la piété chrétienne, par exemple, dans le « Je vous salue Marie », dans le chapelet. Voilà, il y a un Notre Père qui démarre la dizaine. Et une doxologie à la fin, « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Et cette doxologie, nous l'avons aussi, par exemple, dit d'une autre manière, dans la prière du Notre Père, dans l'Eucharistie. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc on rend gloire à Dieu en faisant ça. Alors cette prière du Notre Père, nous allons rentrer dans chaque élément important. Cette prière du Notre Père, nous pouvons dire, elle s'appuie sur le fait que Dieu a réalisé quelque chose pour nous, qui est que nous connaissons que le Christ est mort et ressuscité pour nous, et que nous pouvons l'appeler Père. Donc c'est véritablement une mémoire chrétienne, faire la mémoire de la foi. Mais plus encore, c'est hâter le retour du Christ. Ce n'est pas simplement tourner vers le passé, l'héritage transmis, c'est aussi actuel parce que Jésus est là et que le Père est là quand je le prie, mais c'est aussi tourner vers le futur, faire la fin des temps, que ton règne vienne. Voilà. Donc on voit, c'est une prière dynamique de Notre Père. Nous rentrons maintenant dans les mots du Notre Père. Père. Dieu a révélé son nom mystérieux à Moïse. Il l'a révélé dans le livre des Exodes, où il a demandé à Moïse une grande vénération, en lui disant « N'approche pas, ôte tes sandales » dans l'Exode 3:5. Et il lui a révélé le nom en disant « Je suis celui qui est », c'est-à-dire « Je suis la plénitude de l'existence, je suis celui qui sera, je vous accompagnerai toujours, je suis celui qui fait l'alliance ». Mais il n'a pas donné son nom propre, parce qu'on ne met pas la main sur Dieu. Et le juif sait qu'il ne prononce pas le nom de Dieu, sauf une fois par an. Et encore, c'est le prêtre, le grand prêtre, qui prononce le nom de Dieu. Parce qu'il y a un respect. Alors pourquoi le chrétien peut dire le nom de Dieu? Parce que c'est Jésus lui-même qui nous l'a révélé. Le Père est connu dès l'Ancien Testament. Dieu est bon, s'occupe de ses enfants. Mais le Père, dans son essence, dans sa divinité de Père, comme la première personne de la Trinité, dans son intimité que nous pouvons goûter, seul le Fils nous le donne, cela. Seul le Fils vraiment dit « Père ». Souvenons-nous de saint Jean dans son prologue, au chapitre 1, verset 18, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » C'est-à-dire le Fils unique qui est dans l'intimité de Dieu, le sein du Père. L'intimité, la présence du Saint-Esprit, il est dans le sein du Père, dans la présence du Saint-Esprit, nous l'a fait connaître. Il en est sorti pour nous parler. Et en nous parlant, il nous a donné le Saint-Esprit qui fait dire à nous-mêmes « Abba Père ». Vous voyez, une connaissance personnelle de Dieu comme Père. Et c'est pour ça que Jésus leur dira « Je leur ai révélé ton nom. Je leur ai révélé ton nom. » Alors, le Seigneur nous a révélé le fait que Dieu est Père. Je voudrais m'arrêter un instant dessus en contemplant ce mystère de la paternité de Dieu. C'est pour ça que nous avons une représentation du Fils prodigue derrière nous et du Père dans le tableau de Rembrandt. Nous pouvons être parents. Et avant d'être parents, nous sommes des hommes et des femmes. OK. Et avant, des enfants. OK. Dieu, Père, n'a pas été pas Père avant. Et n'a pas été enfant avant. Il est Père tout le temps. Nous pouvons être parents et être appelés papa, maman, très bien, mais nous avons un autre nom. Chacun de vous a un papa qui a un certain nom qui ne s'appelle pas que papa. Le Père n'a pas d'autre nom que Père. Son nom, c'est sa fonction, et il a toujours été Père. Il est le modèle de toute paternité. Et quand on parle de paternité, c'est lui la vraie paternité. Et Paul en a conscience et dira un jour « Je plie le genou devant Dieu, le Père, source de toute paternité. » Le Père vraiment est le modèle de la paternité, et si quelqu'un était blessé dans son histoire personnelle avec sa famille, c'est guérissant de faire l'expérience de Dieu comme Père. Ça réconcilie avec le fait d'être fils, simplement dans son humanité, dans sa vie spirituelle, et dans ses liens avec ses parents, parce que c'est le modèle de la paternité. Dieu est Père. Et Dieu est Père et nous invite à le prier comme Jésus, c'est-à-dire avec une intimité profonde, c'est-à-dire « Papa chéri, mon petit papa chéri », c'est ça, Abba, Père. Donc c'est véritablement une intimité, et on peut le dire aujourd'hui, le Père Ranero Cantalamessa, prédicateur du Vatican franciscain, au Vatican pour les conférences de Carême, disait « On a redécouvert au XXe siècle le Saint-Esprit. » Très bien. Mais le grand inconnu, c'est le Père. C'est Dieu comme Père. On prie Jésus, on invoque le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on connaît Dieu comme Père? Une chose est de dire notre Père, formellement, autre chose est d'avoir fait l'expérience pour soi-même de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, sa paternité pour moi. Et c'est très important de faire cette expérience. Je disais aux catéchumènes, c'est un peu comme un cartoon. D'un seul coup, quand nous sommes pris dans les bras du Père, on diminue, on se fait tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, et on a l'impression que le monde disparaît et on est dans quelque chose d'immense. C'est ça, être étreint dans l'amour du Père. Et c'est une expérience que nous devons faire, que nous devons témoigner. C'est être saisi par l'amour du Père. Notre foi chrétienne ne s'arrête pas à prier le Fils. Nous prions le Fils en vue de connaître aussi le Père et de faire la même expérience que le Fils, qui est l'amour du Père infini pour nous. Et peut-être nous avons chacun d'entre nous a besoin de redécouvrir cela. Je montre des lieux privilégiés. C'est dans la prière à Jésus, nous pouvons lui demander « Fais-moi connaître tes sentiments, fais-moi connaître ton Père ». C'est dans la récitation du Notre Père, ça peut être de plein de manières différentes. Comme disait sainte Thérèse, un jour elle était dans sa cellule, une carmélite vient la voir, « Que faites-vous ? Je prie lentement le Notre Père, c'est si beau. » Découverte de Dieu comme Père. Comme Charles de Foucault, « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Et profondément aussi dans le sacrement de la réconciliation, qui est le sacrement paternel par excellence. Nous faisons l'expérience de la miséricorde du Père, qui me prend dans ses entrailles. Donc véritablement, une connaissance de l'Esprit-Saint qui nous est demandé de renouveler, qui est une invitation du Seigneur à faire cette expérience. Mais nous ne disons pas simplement « mon Père », mais nous disons « notre Père ». Parce que quand nous disons « notre Père », nous sommes en communion avec le Fils qui prie son Père. Mais aussi nous sommes en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi. Il n'y a pas de prière personnelle qui ne soit pas une prière communautaire. Il ne s'agit pas de dire « il faut que je pense toujours aux autres ». Il s'agit de savoir que quand je m'unis à Dieu, j'attire les autres à Dieu. C'est pour ça que les contemplatifs attirent le monde à Dieu. Et donc celui qui prie le Père prie notre Père et attire les âmes à Dieu. Et Thérèse avait conscience de cela et elle commente le cantique en disant « Attire-moi et nous courons, attire-moi à moi, Dieu, et on attirera les âmes, et nous courons. » Voilà, il faut avoir conscience de cela, il faut avoir conscience du coup de nos engagements communautaires, ecclésiaux, sociaux, familiaux, etc. quand nous prions le Notre Père. Je suis un orant, celui qui prie pour tous, notre Père. Et du coup, je ne mets pas la main sur le Père. Et ce n'est pas simplement ma prière, mais c'est la prière que j'ai reçue de l'Église, pour toute l'Église et pour ceux que le Seigneur appellera dans son Église, notre Père. Donc c'est véritablement une prière missionnaire, une prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux. Un frère chrétien me disait « il faut que je parle de la géolocalisation ». Alors, nous avons représenté, comme on est à l'époque du GPS, on a représenté les cieux. On a des représentations célestes un peu partout, c'est-à-dire des nuages, c'est-à-dire on est fasciné par le ciel. Et ça, toutes les cultures, la contemplation des étoiles pour les Grecs. Mais pour nous, il y a un symbole d'élévation, de dimension sphérique, donc de perfection par rapport à une dimension plutôt terrestre, horizontale ou plus ou moins comme forme de carré, vous voyez. On a dans la représentation de l'architecture ou de la peinture, le ciel est toujours le monde de l'infini, le monde du céleste, du beau. Et quand nous disons ça, certainement, nous avons voulu représenter Dieu qui est dans cet univers de la beauté, de la grande paix, du silence ou de la belle musique, de l'élévation, de toujours la pleine lumière au-dessus des nuages, de la pluie. Tout ça, c'est des représentations symboliques qui nous disent quelque chose que l'homme a voulu placer Dieu à ce niveau. Mais il est sûr que si nous cherchions derrière une étoile ou derrière un nuage, nous ne trouverons pas Dieu parce que Dieu n'est pas physiquement au niveau du ciel. Ce que nous disons quand nous disons « qui est aux cieux », ce ne signifie pas, nous dit l'Église, un lieu, mais une manière d'être. Non pas un éloignement de Dieu, mais sa majesté. Notre Père, nous dit l'Église, n'est pas ailleurs, il est au-delà de tout. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de sainteté. Il est aux cieux, il est parfaitement saint. Le ciel n'est pas loin de nous, puisque le Christ, deuxième personne de la Trinité, a dit « Je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps ». Donc le ciel, c'est une réalité invisible, intemporelle, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de temps, mais où Dieu, ses anges et ses saints sont présents. Et celui qui se connecte au Christ se connecte au ciel, puisque qui touche le Christ touche le royaume de Dieu, touche le ciel. Et donc le ciel n'est pas loin, mais quand nous prions notre Père qui est aux cieux, nous prions la sainteté de Dieu et nous voulons aller vers cette sainteté. La différence entre ce que nous disons le ciel et ici-bas, c'est qu'un jour nous verrons Dieu. Mais déjà Dieu, nous pouvons le saisir, ou plus ou moins, il peut nous saisir. Donc le ciel peut rentrer en contact avec nous. C'est important. Rentrons maintenant, je vous citerai cette épître à Diogène. Les chrétiens sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel. Rentrons maintenant dans les demandes du Notre Père. Nous avons vu que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Trois premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sont des demandes qu'on pourrait dire théologales. Ça tombe bien, puisque le baptême, c'est la grâce des vertus théologales, la foi et l'espérance, la charité. C'est véritablement des dons qui nous sont donnés et des invitations à vivre de ces dons dans les demandes. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Les quatre dernières, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, sont un chemin. Elles offrent un chemin de conversion à la suite du Christ, qui est le chemin, qui a vécu cela en plénitude. Un chemin de conversion, on pourrait dire aussi de configuration de ma vie personnelle à la vie de Jésus. Et ces trois premières demandes sont mises dans un ordre particulier qui, elles aussi, vont éclairer toutes les autres demandes. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à prier dans cet ordre. Et nous allons le voir. Que ton nom soit sanctifié, la première demande. Il est étonnant de dire « Seigneur, tu es saint, que tu sois saint ». C'est comme si, j'aime apprendre cet exemple, vous voyez le soleil et vous vous ramenez à côté du soleil en prenant une lampe. « Je vais t'éclairer le soleil pour que tu sois plus brillant ». Le soleil nous rirait en disant « J'en ai pas trop besoin ». Et quand nous disons « Tu es saint et que tu sois saint », ben, le Seigneur nous dirait « J'en ai pas trop besoin ». Ce qui est vrai. Mais quand nous disons « Que ton nom soit sanctifié », ce n'est pas ça. Nous disons que le nom de Dieu, sa paternité, sa sainteté, celui qui est au-delà de tout et qui est très proche en Jésus-Christ, soit connu, soit révélé. Que cette sainteté, cette gloire, cette paternité, cette vérité, cette lumière, cette pureté soit connue des autres. Et donc, du coup, c'est impliquant. C'est un acte de foi que ton nom, celui que Jésus m'a révélé, Père, Dieu, ce que Jésus m'a révélé, donc c'est un acte de foi, mais qu'il soit sanctifié, qu'il soit béni par les autres, reconnu comme saint. Ça nous rappelle l'épiphanie, il nous faut faire rayonner la lumière. Et donc c'est un engagement de toute la prière du chrétien à faire connaître la gloire de Dieu, à être missionnaire, à l'annoncer. Et le Seigneur a posé ça comme première condition à la prière chrétienne. Ça veut dire qu'elle ordonne toute la vie chrétienne. Elle ordonne ma vie chrétienne et elle ordonne mon agir. C'est-à-dire, c'est ce que dit le Seigneur dans une autre parole de Dieu, 1 Pierre 1,16, « Soyez saints, car je suis saint. » C'est la réponse, « Que ton nom soit sanctifié. Tu es saint, je veux faire connaître ta sainteté en devenant moi aussi saint et en parlant de ta sainteté. Que ton nom soit sanctifié. » Donc, il faut avoir conscience que quand nous disons une prière chrétienne, si nous voulons dire vraiment dans l'ordre, le but de toutes nos actions, de nos demandes, en réalité, c'est pour la gloire de Dieu, pour qu'il soit connu et soit saint. Et une prière qui n'est pas ordonnée à ce but-là a peu de chances d'être exaucée, puisque c'est la première condition. Le Seigneur nous enseigne cela, et c'est important. Et saint Jean Chrysostome disait cette parole très forte. « Nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, car c'est la sainteté. C'est par la sainteté qu'il sauve et sanctifie toute la création. Il s'agit du nom qui donne le salut au monde perdu. Mais nous demandons que ce nom de Dieu soit sanctifié en nous par notre vie. Car si nous le vivons bien, le nom divin est béni. Mais si nous vivons mal, il est blasphémé. Selon la parole de l'apôtre, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. Romains 2, 24. Nous prions donc pour mériter d'avoir en nos âmes autant de sainteté qu'est saint le nom de notre Dieu. Voyez, que ton nom soit sanctifié, que je sois miroir de ta sainteté, que je la diffuse. Et toute ma vie, elle est ordonnée à ça. Donc il faut avoir confiance, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, est-ce que c'est ordonné à ce but? Et ça, c'est une vraie prière dans le Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Et donc nous voyons, vertu théologale, que ton nom soit sanctifié, ça touche à la foi. J'ai foi dans le nom de Dieu. J'ai foi. Et ma vie, c'est un appel à la sainteté, à diffuser la foi au vrai Dieu, révélé en Jésus-Christ. Acte de foi. Que ton règne vienne, acte d'espérance. Le Christ est le roi par excellence. Et nous avons une fête liturgique sur le roi, roi de l'univers. Dernière fête liturgique de l'année. Le Christ a montré sa royauté, mais il l'a montré dans le service, c'est-à-dire un abaissement qui aime et qui s'humilie. Un abaissement pour permettre à chacun de le connaître d'une manière proche. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donnez votre vie. Ça veut dire que le règne de Dieu, il est à la fois maintenant et pas encore. C'est-à-dire, maintenant le Seigneur me demande d'agir comme lui, à la manière du serviteur, à la manière de quelqu'un d'aimant qui donne sa vie pour les autres. Mais en vue de quoi? En vue de la Jérusalem céleste, en vue au moment, où le jour où tout sera réuni en Christ. Et donc, quelque part, c'est la fin des temps. C'est le règne céleste. Et donc, nous voyons, c'est la dynamique de la vertu d'espérance. J'agis aujourd'hui en vue du ciel. Ce que je fais aujourd'hui est motivé uniquement en vue de ce que promet Dieu, sa royauté définitive sur toute personne. Et ici-bas, ça me demande non pas de démissionner, mais de m'investir dans les choses concrètes, sociales, familiales, du quotidien. Parce que justement, je veux faire advenir le règne de Dieu, nous dirait le Concile Vatican II. Je veux véritablement travailler à l'œuvre de Dieu. Que ton règne vienne. Vous voyez, c'est lié à la vertu d'espérance. Que ta volonté soit faite. On ne mesure pas l'amour à l'intensité affective. Ce n'est pas un sentiment profondément, c'est un choix. Mais c'est plus qu'un choix, c'est un acte aimé. On parle d'acte de foi, acte d'espérance, mais aussi acte de charité. C'est un acte. Ça veut dire concrètement, ça se traduit comment pour un chrétien faire la volonté de Dieu? Critère objectif, je sais que j'aime si je fais la volonté de Dieu. Que je le sente pas, que ça me soit agréable ou pas, je sais que j'aime si je fais la volonté de Dieu. Acte de charité. Et Jésus nous dit, je fais toujours sa volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus nous enseigne à faire la volonté du Père. Et le chrétien est invité à faire comment la volonté du Père? Ben justement, à avoir comme premier axe dans ses demandes aussi, faire connaître le nom, que j'ai foi dans le nom de Dieu, et le faire connaître et rayonner de sa sainteté, mon appel à la sainteté, avoir conscience que j'ai à agir, que ton règne vienne en vue du ciel, mais dès ici-bas. Et comment je vais m'y prendre? C'est la partie concrète. C'est en gros, que me demande le Seigneur? Me rappeler les 10 commandements, c'est la volonté de Dieu. Me rappeler tous les conseils évangéliques que le Seigneur m'a dit dans son évangile, mais aussi l'enseignement de l'Église, c'est la dimension objective de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ça, c'est une dimension, j'allais dire, uniforme. On serait tous des chrétiens standards. Le Seigneur nous demande des choses particulières après, qu'il nous faut écouter dans le cœur, à cœur, dans la prière, dans l'écoute de la parole et l'émotion du Saint-Esprit, à travers les invitations des frères et sœurs, des événements, où là, le Seigneur va personnaliser sa volonté pour nous. Et celui qui agit ainsi aime son Seigneur parce qu'il fait toujours sa volonté. Et c'est, en gros, apprendre à dire « que ta volonté soit faite », c'est un exercice d'écoute. Tu écouteras le Seigneur ton Dieu, il t'enseignera et il te montrera ce que tu as à faire. Et tu préféreras la volonté de Dieu à la tienne. C'est du décentrement, c'est de l'amour. Et vous voyez, ces trois demandes, quelque part, elles conditionnent, elles libèrent, je dirais plutôt, notre personnalité, notre vie spirituelle, en vue de demander d'agir comme il convient. Et à partir de là, nous pouvons demander, agir comme il convient. Et je voudrais dire, il faut avoir foi que le Seigneur, si nous cherchons sa volonté, nous exaucera. En Jean 9, 31, le Seigneur nous dit « Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. » C'est pas mal. Donc on ne sait pas comment il nous exaucera, mais si nous cherchons à faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, le Seigneur va tout faire pour aider. Et nous pouvons à ce moment-là rentrer dans la prière les autres demandes. Et souvent, nous voyons, nous commençons par ces demandes. « Notre Père, donne-moi. » Alors il faudrait commencer par « Est-ce que j'ai foi en ton nom, que tu m'aimes ? Est-ce que j'ai foi que tu m'appelles à la sainteté et à diffuser ça ? Est-ce que j'ai foi que tu me demandes d'œuvrer et à préférer ta volonté à la mienne ?» Et on dit « Il ne m'a pas exaucé, mais est-ce que les conditions sont mises dans l'ordre ?» Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous est global. Déjà, c'est un acte de foi. Donne-nous aujourd'hui avoir conscience que Dieu donne, mais qui donne vraiment et qui donne dans le concret. Il me donne ce qu'il faut aujourd'hui. Et le Seigneur, au final du chapitre 6 de Matthieu, nous dira « Chaque jour suffit sa peine. » Et puis, « Demandez et vous recevrez. » C'est-à-dire, il nous demande de croire qu'aujourd'hui, il nous donnera ce qui est bon pour nous et que nous n'avons pas à nous inquiéter pour le lendemain, mais aussi à demander des choses concrètes. Je me souviens de quelqu'un qui disait « Dieu s'occupe de tout, mais est-ce qu'il peut le reste ?» Sous-entendu, ok, Dieu a tout créé, mais est-ce qu'il s'intéresse de mes petits problèmes quotidiens, personnels ? Je me souviens aussi d'un prêtre, un aîné dans la foi, qui un jour me témoignait de cela après une retraite spirituelle. Il va voir un autre prêtre et il lui dit « J'ai compris que je ne demandais rien à Dieu. » Et le prêtre de lui dire « Si vous ne demandez jamais rien à Dieu, vous n'avez pas la foi. » Alors le prêtre qui était prêtre a pris une claque ce jour-là, mais il a compris en fait « Est-ce que c'est vrai que je pose un acte de foi que Dieu peut m'aider dans mes choses concrètes ou pas ? Si je le fais jamais, en quoi il pourvoit mes besoins ?» Et donc nous avons à demander véritablement des choses concrètes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va nous exaucer. Dieu ne nous donnera pas forcément une Porsche, de l'argent. Mais il attend une audace de notre part, une audace de confiance, une audace de foi. Demandez et vous recevrez. Et si c'est bon pour nous, cela nous sera donné. Et des fois, il faudra persévérer. Des fois, la persévérance purifiera notre demande pour l'ordonner aux trois premières conditions. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. On peut demander la guérison pour soi et on ne l'a pas. Thérèse de Lisieux disait, quand ses sœurs priaient pour sa guérison, « Je prie d'abord pour faire la volonté de Dieu. » C'est peut-être ce qui est le mieux pour moi. Donc il nous faut demander. Le Seigneur attend que nous demandions et il nous donne aujourd'hui ce qui est bon pour nous. Pas demain, pas hier, aujourd'hui. Simplement aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Donc nous devons être dépendants chaque jour. Donc la prière de demande est véritablement une prière importante. Cette prière de demande, elle est globale et particulière. Je dirais globale et essentielle. Elle est globale parce qu'elle concerne tous notre vie. Nous pouvons demander tout à Dieu, sur tous les points, tout. Et en même temps, elle est essentielle, c'est-à-dire il nous donne l'essentiel, il nous donne le pain de ce jour, qui est sa parole et qui est plus profondément l'Eucharistie. Jésus a exaucé cette prière et en nous donnant l'essentiel, il nous donne tout. Il se donne lui-même, il se donne lui-même. Et donc quand je prie « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », j'ai besoin d'avoir de plus en plus faim de l'Eucharistie, de sa parole. Aussi, faim de réaliser concrètement ce que Dieu attend de moi. Et nous voyons aussi que la réalisation du pain qui m'est donné pour une part, passe par ma collaboration. Je me souviendrai toujours d'un jeune qui préparait un examen, qui avait travaillé pour et qui était croyant, qui avait découvert le Christ. Et ce jeune, quand il a eu son examen, il a eu une bonne note, a dit aux autres, ça vient de Dieu. Alors les autres ont dit, ouais, enfin, t'as travaillé quand même. Oui, mais ça vient aussi de Dieu. Parce qu'il avait pris conscience que Dieu avait œuvré en lui. Et que quelque part, Dieu lui avait dit, tu vas travailler et tu auras le fruit de ton travail. Ça sera ton pain, ça te nourrira. Je vais travailler avec toi, par lui, avec lui et en lui. Il y a Jésus qui travaille avec moi. Donc le donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ça nous invite obligatoirement à ne pas être feignants. Tu veux des fruits, des fois le Seigneur le donne directement, des fois il te dit, travaille à ma vigne et tu travailles. Et nous, nous sommes des collaborateurs. Et le Seigneur attend que nous collaborions parce que c'est notre dignité. C'est notre dignité d'être des instruments. Et plus encore, le Seigneur nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il nous le dit dans les Actes des Apôtres. Et ça veut dire que nous devons aussi apprendre à donner. C'est une éducation à apprendre à donner. Pourquoi ? Parce que déjà pour nous-mêmes, celui qui ne donne pas se devient égoïste. Celui qui ne donne pas ce qu'il a reçu, il le perd. Un jésuite a dit, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Le propre de la vie spirituelle, c'est ce que je donne, je ne le perds pas, je le fais fructifier. Ce que je garde pour moi, ça meurt. Ça me rend aigri, ça me rétrécit, et ça ne fait pas profiter les autres. Le mystère de la grâce, c'est comme le pain, c'est quand je le donne, il se multiplie. Mais quand je le garde, il se rétrécit. Donc on nous invite à donner, mais plus encore, à donner par un amour aussi pour les autres. Parce que, nous dirait l'Église, les pauvres ont besoin de notre amour, de notre connaissance de Jésus, de notre affection, voire même de nos biens, de partager de nos biens. Et là, on touche à une dimension de la doctrine sociale, la destination universelle des biens. Ce que j'ai en propre n'est pas ultimement que pour moi, mais à partager aux autres. Saint Jean-Baptiste l'a dit, un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Mais en vue de quoi ? En vue aussi des autres. Et donc je donne aussi ce que j'ai, je fais participer à ce que j'ai. Et ça nous rappelle les premières communautés chrétiennes qui disaient, ils mettaient tout en commun. Et plus profondément encore, l'Église nous dit, si tu ne donnes pas l'amour de Dieu, si tu ne prends pas soin de ton frère qui est dans la misère, ton frère sera scandalisé. Ok, c'est un manque de justice, de charité, et plus profond, et c'est déjà terrible. Et plus profondément, il risque de douter de l'amour du Père pour lui. Et donc tu es miroir de la bonté du Père. Donc tu dois donner pour qu'il sente la proximité du Père auprès de lui. Il sente cette bienveillance à son égard. Donc le chrétien a cette mission de travailler pour le Père comme le Père travaille pour lui. Donc vous voyez, c'est une collaboration pleine. Nous ne faisons pas que pour nous, nous le faisons pour les autres. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Nous l'avons mis dans cet ordre-là, le Seigneur nous l'enseigne dans cet ordre-là. C'est très intéressant, nous voyons, donne-nous notre pain de ce jour. Ça touche l'Eucharistie, par excellence. Et juste après, on peut dire, ça touche le sacrement de la réconciliation. Donc nous voyons, ces deux sacrements sont liés. Petit examen de conscience, est-ce que je vais de temps en temps au sacrement de la réconciliation ou jamais? Et est-ce que je vais toujours à l'Eucharistie sans jamais aller au sacrement de réconciliation? Parce que les deux sont liés. Il y a une unité, le Seigneur nous l'apprend, il nous enseigne, il y a une unité. Ce n'est pas un jugement, mais c'est une invitation du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et le Seigneur nous invite à bien comprendre l'agir chrétien. Souvent, on le comprend comme moralisateur. Il faut faire ça, il faut pardonner, il faut faire ça. Ça devient très épuisant, très dur. Mais l'agir chrétien n'est pas de cet ordre-là. L'agir chrétien, c'est d'avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu pour soi, et donc d'abord, d'avoir fait l'expérience du pardon de Dieu pour soi. C'est d'abord ça dans la prière. Pardonne-nous nos offenses. J'ai fait l'expérience du pardon de Dieu pour moi, de l'amour du Père miséricordieux, de Jésus qui sur la croix m'a pardonné. Toutes mes actions sont mues par le fait que Jésus m'aime infiniment et qui m'a pardonné. Et ensuite, de cet amour, je peux donner aux autres, moi aussi, un pardon. Un pardon qui peut être parfois difficile, Mais le Seigneur ne nous demande pas de nous appuyer sur mon pardon, mais de donner notre pardon avec son pardon. La vie de Dieu en moi. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, mais le Seigneur demande de le désirer. Et voyez-vous, nous pardonnons, mais si nous ne pardonnons pas, nous nous aigrissons. Je sais par témoignage des gens qui ont vécu des grandes épreuves sont des gens qui se durcissent s'ils ne pardonnent pas. Le pardon est libérateur pour la personne qui le reçoit, puisqu'elle est réintégrée dans la communauté, dans la vie sociale, dans la vie paroissiale. Elle est même réintégrée dans la vie de grâce avec Dieu, puisque le péché peut couper. Mais pour la personne qui le donne, ce pardon, elle évite de l'aigrir. Elle lui redonne une dynamique de confiance et d'amour. Et donc pour nous, il est vital de vivre du pardon. C'est une forme de l'amour. Un prêtre disait un jour, le pardon, c'est ce qui parfait le don. Quand le don a été abîmé, le pardon parfait le don. Donc le Seigneur nous apprend une manière d'aimer, très concrète, qui s'appuie d'abord non pas sur nous-mêmes, mais sur le fait que nous goûtons l'amour de Dieu qui pardonne, puisqu'il nous dit d'abord, pardonne-nous nos offenses. Tu contempleras ton Père qui est miséricordieux pour être miséricordieux toi aussi. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne nous soumets pas à la tentation. La tentation, c'est le propre du chrétien. C'est encore une belle grâce du Seigneur aujourd'hui d'avoir cela dans le baptême, dans la fête du baptême, puisque le baptême, c'est la vie spirituelle. Nous vivons du Saint-Esprit, nous sommes fils de Dieu. Or, la vie spirituelle intègre le combat spirituel. Et parce qu'il y a du combat spirituel, nous en aurons jusqu'au bout. Le Christ lui-même a vécu le combat spirituel à travers les calomnies, à travers les doutes, à travers les refus, les persécutions, mais aussi le combat contre Satan, les démons, la tentation au désert, tiens, très intéressant, juste après qu'il soit baptisé, où il va au désert, pour vivre le combat spirituel. Donc le propre du chrétien, c'est de vivre le combat spirituel. Nous avons des grandes traditions de discernement du combat spirituel, en particulier notre pape jésuite, l'exercice de Saint-Ignace. Discerner les esprits, voir ce qui est du bien et du mal, du démon ou de l'Esprit Saint. Ce combat spirituel implique que de fait nous soyons tentés. Donc quand nous sommes tentés, ce que nous demandons au Seigneur, c'est de ne pas vivre de tentation, nous en vivrons jusqu'à notre mort. Quelqu'un me disait à propos de l'orgueil, l'orgueil meurt un quart d'heure après nous. Donc ce n'est pas le problème. La question c'est est-ce que nous faisons des concessions, nous pactisons avec la tentation. Je peux avoir telle pensée, ok, qui est due à mes mémoires, due à un mauvais pli dans mon histoire, due à une personne que je ne supporte pas, due à une limite de cœur première, je ne sais pas aimer ça. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? J'adhère ou à ce moment-là, je la repousse cette pensée? Est-ce que quand j'ai posé un mauvais acte avec mon frère ou avec moi-même ou plein d'autres choses, est-ce que je repousse tout de suite ou je pactise? Le combat, la tentation, elle est là. Ce n'est pas simplement de ne pas être tenté, on sera toujours tenté, mais c'est de refuser, de refuser. Et pour cela, frères et sœurs, il y a un premier moyen et un deuxième moyen, nous enseigne le Seigneur. Le premier moyen, c'est d'avoir foi que le Seigneur veut nous aider à vaincre le combat spirituel. La première arme, c'est le don du Saint-Esprit qui est fait pour nous, qui nous enseigne, qui sont des armes. La parole de Dieu, la vie de prière, est une grâce pour le combat spirituel. D'ailleurs, le Seigneur le dit, priez pour ne pas rentrer en tentation. Priez parce que l'esprit est fort, mais la chair est faible. Donc, priez. Et donc, quelqu'un qui voit la tentation, il faut à tout prix qu'il prie. Si on ne prie pas, on est bien faible. On fait de la présomption. On croit qu'on va y arriver alors qu'on n'y arrive pas. La deuxième chose, c'est de se donner les moyens. Pas d'angélisme. C'est du concret, c'est-à-dire quels sont les moyens concrets que je prends pour éviter telle ou telle tentation. Alors, je vais prendre un exemple concret. Vous voyez ici, il y a une porte. Je l'ai pris cet exemple avec les catéchumènes. Vous avez une porte. Vous entendez un son. On pourrait dire que c'est une tentation. Vous avez la possibilité soit de rester près de la porte, d'écouter, d'être fasciné par le bruit, soit alors d'aller dans l'autre bout de la pièce et de dire « je vais faire couper court tout de suite à la tentation ». Parce que si on y reste trop longtemps près de la porte et qu'on entend le bruit, à un moment donné ou un autre, on va ouvrir la porte et on va y passer. Et puis même, on va passer de l'autre côté et s'enfermer et après devenir esclave. Donc pour nous, la première chose, c'est la prudence, la connaissance de soi, des lieux où nous pouvons être tentés et de prendre tous les moyens pour les éviter et dans ce cas-là, se sentir plus faible que surestimer ses forces. C'est de la sagesse. Il ne faut pas rêver à une porte blindée qui sera hermétique, où il n'y aurait jamais de tentation, ça n'existe pas. Il y en aura toujours. Mais le Seigneur est libérateur, et le Seigneur nous demande aussi d'être prudent. Première, confiance, appuie-toi sur moi. Deuxième, sois prudent, mets tout en œuvre. Sinon, ta prière, c'est que du vent. Ne nous soumets pas en tentation, tu passes à l'acte. Troisième chose, et dernière, mais délivre-nous du mal. Pardon, quatrième chose et dernière, le Seigneur nous dit en Jean 17, 5, « Je ne prie pas de les retirer du monde, mais de les délivrer du mauvais. » L'Église nous enseigne cela, et c'est important, « Le mal n'est pas une abstraction, nous dit-elle, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu, le diable, le diabolos. » Et donc, quelque part, quand nous prions de nous libérer du mal, nous prions effectivement pour l'auteur, celui qui est le tentateur par excellence, qui a tenté Jésus et qui nous tente aussi, qui est le démon, pour pouvoir combattre le démon. Mais nous ne prions, donc nous sommes lucides. Il y a un combat du bien et du mal dans le monde. Et en nous-mêmes, il y a des ténèbres. Nous sommes lucides, mais nous ne sommes pas peureux. Nous sommes lucides, le chrétien est lucide, mais il n'est pas peureux, il n'a pas peur. Parce que Jésus est victorieux de Satan, est victorieux du mal. Et si nous avons encore des tentations, ce sont des soubresauts de sa défaite. Il est bientôt complètement enfermé. Il sera bientôt définitivement exclu, son pouvoir, puisque le Christ ressuscité en son temps jugera tout le monde. Donc il nous faut avoir confiance que Jésus est triomphé. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Cette invitation aussi, quand nous disons « délivre-nous du mal », qui est première, je le rappelle, et le pape François insiste sur cette entité du diable, c'est aussi de reconnaître toute forme dérivée d'esprit mauvais, de catégories sociales qui nous inclinent à pécher, ou alors de maux de société, ou du mal en général, pour l'éviter, pour ne pas collaborer, pour ne pas quelque part être contaminé par un esprit du monde qui ne serait pas l'esprit du Christ. Et l'Église nous dit, en demandant d'être délivrés du mauvais, nous prions également pour être libérés de tous les maux présents, passés et futurs, dont le diable est l'auteur et l'instigateur. Dans cette ultime demande, l'Église porte toute la détresse du monde devant le Père. Avec la délivrance des maux qui accablent l'humanité, elle implore le don précieux de la paix et la grâce de l'attente persévérante du retour du Christ. Ainsi, en priant, elle participe dans l'humilité de la foi à la récapitulation de tous et de tout en celui qui détient les clés de la mort et de l'Hadès, le maître de tout, celui qui est, qui était et qui vient. Nous avons vu le Notre Père, nous avons vu la doxologie. Simplement quelques mots, quand nous disons « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance », cette prière est une prière d'adoration, d'action de grâce, et nous dit l'Église aussi, comme dans la liturgie céleste. Quand tu pries le Notre Père qui est au ciel, tu termines par la doxologie, tu pries comme les anges et les saints, ton Père, qui est au ciel, mais qui en même temps est proche puisqu'il voit dans le secret. Alors voilà pour le Notre Père.